Bienvenue sur notre chaîne créative Disturbance. Ici Ventina depuis le Texas, en lien avec l'équipe Rami Méditerranée au Liban. Claudine Dussolier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Claudine Dussolier. Il me semble que vous êtes avec deux invités. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Donc en fait, Ricardo Mbarco et Abdou Nawar font partie, comme moi, de l'équipe qui anime la plateforme Rami depuis plusieurs années. Nous sommes ensemble ces jours-ci au Liban pour travailler sur plusieurs projets, dont un projet de livre que nous voulons sortir l'année prochaine,
Qui va porter sur quoi?
sur en fait 20 ans de développement des arts numériques dans le monde arabe, en tout cas au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique du Nord.
Oui.
Et nous envisageons une parution à la fois en français et en anglais. Donc nous sommes sur ce chantier-là en ce moment, puisque en tout cas Abdou Nawar et Ricardo Mbarco font partie, sont les piliers de la plateforme Rami au Liban. Donc je vais d'ailleurs céder la parole à Abdou pour qu'il puisse un peu préciser qui il est et également comment peut-être la plateforme a démarré.
D'accord. Alors, bonjour Abdou.
Bonjour.
Alors, il me semble que oui, Rami est une plateforme de rencontres et de discussions autour des problématiques art, sciences et technologies au Moyen-Orient, enfin en Afrique du Nord aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos activités?
Peut-être il faut mettre les choses dans le contexte, pourquoi on a
Oui.
commencé Rami.
Oui.
En 2003, il y a eu la première rencontre de Rami, et ça s'appelait pas Rami à l'époque. C'était la première approche de l'art digital par rapport à des artistes, à des jeunes artistes libanais. Et c'était ouvert à des vidéastes, des gens qui viennent de la com, je sais pas, des réalisateurs vidéo. Et tout le monde ensemble, ils ont découvert cette ère-là dans un sens où ils ont essayé tous les contextes pour essayer de comment développer leurs propres arts à travers ça. Et petit à petit, on a développé ça pour devenir une plateforme qui n'est pas juste une plateforme d'expérience artistique, mais plutôt de discussion et de développement des esthétiques et des idées, c'est quoi, de questionnement sur l'art digital, etc. Et maintenant, on a senti le besoin de concentrer ça, de mettre ça, enfin, à point dans un livre, peut-être, qui fait l'histoire de cet art au Liban et au Moyen-Orient, peut-être même aussi nord-africain, à
Oui.
travers des expériences qu'on a passées, les séminaires, les rencontres, les œuvres artistiques développées, etc.
D'accord. Et vous, dans ce projet, quel est votre rôle? Comment est-ce que vous pensez ça? C'est pratique.
Au départ, c'était plutôt c'était dans l'organisation beaucoup plus qu'autre chose. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la vidéo et en même temps au théâtre, je trouvais que le numérique, c'était un développement qui va beaucoup plus loin avec les deux métiers que j'avais au départ, vidéo et théâtre.
Vous êtes vous-même artiste, en fait.
Oui, je suis metteur en scène, écrivain, je fais vidéo, de la vidéo et aussi du théâtre.
D'accord.
Surtout,
Ah.
et j'enseigne aussi le théâtre et la vidéo à l'université. Du fait, j'ai toujours le contact avec les jeunes et je vois combien ils ont soif d'aller faire des nouvelles découvertes. Pour eux, la vidéo, c'est un moyen de communication la plupart des fois, beaucoup plus qu'un but en soi. La plupart des étudiants, ils sont à la découverte de l'art digital. Et mon rôle,
D'accord.
j'imagine, c'est surtout de créer ce lien, de développer ça pour moi comme artiste et en même temps d'aider mes étudiants et d'autres jeunes artistes libanais.
Donc, si je comprends bien, le champ de l'art, disons technologique, est en pleine effervescence au Liban et au Moyen-Orient.
Tout à fait, mais la plupart des fois, avoir la technique, ça ne veut pas dire avoir l'art comme tel, parce qu'il y a beaucoup qui découvrent la caméra, par exemple, Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la caméra? On connaît tous l'Internet, mais est-ce qu'on peut utiliser l'Internet comme art? C'est là la question, c'est ce qu'on essaie de développer ici, de donner le point. Je laisse peut-être la parole à Ricardo pour ne pas trop
Oui.
tarder, qui est là dans ce.
Il n'y a pas de problème, merci.
Merci.
Bonjour
Bonjour.
Ricardo.
C'est Ricardo Mbarjo, je suis Libanais. Je vis
Oui.
et travaille maintenant au Liban. Je me suis retrouvé avec l'équipe de Rami un peu plus tard, après la création de Rami. Et je me suis retrouvé avec Rami parce que ça reflétait un peu mon terrain qui a plusieurs facettes. En tant qu'artiste et en tant que chercheur et en tant que pédagogue. Donc la pédagogie, la recherche et la créativité existaient dans Rami et la numérisation et l'époque du numérique qui m'intéresse m'a fait par nature me retrouver à Rami. Mon travail d'artiste et mon travail de chercheur et mon travail de pédagogue se retrouvent avec Rami, surtout dans les points socio-économiques et sociaux. Je parle souvent des problématiques qui intéressent toute une société et à partir de cette objectivité-là, je commence à fouiller ma place d'artiste comme mon travail qui part des accords politiques que l'État libanais a conclus depuis l'indépendance du Liban jusqu'à maintenant.
Ok. Oui, non, c'est parce que j'ai regardé un peu sur Internet vos travaux et la manière dont vous en parlez. Et effectivement, j'ai noté que dans votre description de votre travail, vous pensez les rapports entre art et science, pas seulement de manière locale. Vous envisagez en fait la manière dont ces pratiques technologiques sont affectées chez vous par la politique et l'influence de l'institution. Notamment, je veux dire, par rapport au Liban, qui est un pays dont l'histoire aussi est particulière. Comment est-ce que vous articulez tout ça, politique, art, sciences et technologie, et dans votre contexte culturel en particulier?
Oui. Déjà, l'histoire et la géographie du Liban me facilitent la tâche. Nous sommes 15 millions de Libanais à l'extérieur du pays et 3 à 4 millions à l'intérieur. Et voilà, de ce fait, l'internationalisation de la science par rapport à la scène locale, elle existe parce que quand on est en train d'étudier déjà, on
Oui.
commence souvent et on voyage. Et puis
D'accord.
on retourne et on revoyage. Donc je sens déjà la globalisation en miniature ici au Liban. Et ça influence la pratique même de ma position artistique.
C'est-à-dire que la diaspora libanaise influence la culture locale au Liban?
Certainement, parce que quand on parle de science, on va voyager dans un pays européen ou américain ou asiatique, en Russie ou le Japon, aux États-Unis, France, n'importe. Déjà,
Oui.
on est trilingue et en moins trilingue, et donc on va étudier ailleurs. Et quand on étudie ailleurs, cette formation influence directement la culture et les acquis ici, dans le pays. Et cette cohabitation du local avec le global fait que faciliter beaucoup ce rapport entre science et art, parce que l'art s'intéresse surtout à la subjectivité et la science à l'objectivité. Et donc, l'objectivité, c'est un peu le local et la personne et le passé, l'histoire et toute cette conscience collective qu'on a vécue ici au Liban et qui est surtout depuis la guerre civile jusqu'à aujourd'hui. Et puis,
Oui.
cette objectivité qui est aujourd'hui on regarde le monde entier, on reconnaît quelque chose du Libanais avec notre point de vue sur notre vécu local. Et dans la pédagogie, la nouvelle génération, elle n'a de cesse de refléter ces liens et qui se répètent souvent. Surtout que ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient l'a déjà vécu plusieurs fois et ça devient pour nous quelque chose qui
est très problématique, j'imagine.
Problématique et on est expert en la matière, si on peut.
D'accord. Mais ça me semble intéressant ce que vous dites par rapport même au projet d'Afrique virtuelle qui est l'influence en réalité de la diaspora africaine, mais même au-delà, hein, on peut penser à toutes les formes de diaspora et c'est un peu l'objectif et c'est ce que nous avons envie d'impulser et d'injecter dans ce projet, c'est-à-dire intégrer toute la diaspora africaine dans les discussions autour des problématiques art, sciences et technologies. Mais ce qui m'avait aussi frappé en lisant votre travail, c'est surtout le rôle de la vidéo. Pourquoi il y a cette emprise particulière pour la vidéo plutôt que pour les autres formes artistiques?
Parce que déjà au Liban, il y a les chaînes des industries télévisuelles qui dominent le pouvoir médiatique. La politique utilise beaucoup la vidéo comme outil de pouvoir. Et chaque parti politique, elle joue sur les propagandes médiatiques, télévisuelles, vidéo. Alors, l'artiste qui va naturellement se positionner et questionner son entourage politique et social, il trouve facilement cet outil-là, flexible, qu'on peut copier, qu'on peut diffuser, surtout avec les interfaces comme YouTube ou Vimeo ou l'Internet en général, et maintenant WhatsApp et les messageries. Il utilise ce même outil de pouvoir peut répondre et rendre la balle à cette politique qui veut un citoyen passif. Donc, l'artiste qui se veut actif, il le trouve dans la vidéo, surtout la puissance médiatique et la puissance narrative aussi, parce qu'on veut raconter et on veut documenter et on veut un outil qui réponde à ça. C'est la vidéo qui était et reste toujours le moyen le plus utilisé.
Parce que c'est celui dont te sert le pouvoir politique pour, pour influencer les consciences en réalité. J'aimerais une dernière fois peut-être qu'on parle juste du projet de livre que vous êtes en train de développer tous les trois. Sur quoi va-t-il porter ce projet de livre, Claudine ?
En fait, le projet de livre est motivé par le fait qu'on a conscience, non seulement tous les trois, mais aussi quelques autres collègues qui font partie de Rami en Égypte, à Marseille, aussi en Italie, et aussi on a des relais au Maroc et en Tunisie, qu'on est en quelque sorte des témoins qui pouvons en fait relater la façon dont des savoir-faire et des modalités d'intervention sur le réel quand on est artiste sont constituées, et que c'est maintenant que à nouveau les choses probablement sont en train de changer à tout point de vue. C'est le moment d'essayer de rendre accessible un peu des processus qui ont permis cette diffusion, cette contamination. Donc le livre, il va à la fois être très ambitieux et très simple, d'essayer de synthétiser à la fois ce qui préexistait ou la manière dont, dans cette partie du monde, l'Internet a été approprié, par quel type de logique en matière d'expérimentation, quels ont été les pionniers, est-ce qu'il y a eu des œuvres majeures qui ont fait des déclics et parce qu'elles ont pu être diffusées d'une manière large et stimuler les imaginaires, de quelle manière aussi L'enseignement a ou n'a pas pris en considération, et notamment les académies des beaux-arts ont pris en considération les nouveaux médias et les potentialités des nouvelles technologies, et de quelle manière, en fait, également, on a pu effectivement assister à des formes de passerelles entre la vidéo et l'art numérique, voire les choses qui exigent un détour par les sciences. Donc un petit peu tout ce qui a constitué les points clés de ce
Oui.
processus. On fera également quelques focus sur les réalités en Égypte, les réalités au Liban, au Maroc, en Tunisie, parce qu'on a conscience, comme l'a rappelé d'ailleurs à l'instant, l'ont rappelé à la fois Abdou et Ricardo, que selon les contextes, les stratégies des artistes et des acteurs ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il y a
Oui.
des variantes qui sont significatives et des dynamiques intéressantes à faire connaître en Europe et même dans le monde arabe, en fait, parce qu'on a le sentiment que la plateforme Rami a joué un rôle à l'intérieur même de la région pour diffuser des informations. Voilà en gros les ambitions du livre.
D'accord. Et il est à apparaître prochainement ou bien vous avez une idée à peu près?
On espère qu'il sera en tout cas prêt à être publié au printemps. Et
Oui.
donc on espère pouvoir le publier à mi-2015. Et on doit aussi discuter avec nos collègues du MIT pour voir de quelle manière il pourrait être diffusé aussi aux États-Unis.
D'accord, il sera en langue
L'éditeur privé en
française,
France.
j'imagine.
Ouais.
Pardon, vous disiez?
En tout cas, on prévoit d'emblée de le publier en français et en anglais.
Et en anglais, pas en arabe?
C'est pas qu'on n'aurait pas envie, mais ça pose dans l'immédiat probablement un certain nombre de questions liées au langage, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément traités facilement, notamment au niveau des concepts, voire des outils en langue arabe.
Oui.
Donc, en fait, en soi, la question d'exprimer ses idées en langue arabe est en soi un sujet de recherche qui
D'accord.
exigerait, qui n'est pas du tout impossible à relever, mais ça en soi exigerait un dispositif de travail qui serait un peu plus long. Donc, si on doit le traduire en maîtrisant vraiment ce qu'on va publier, on est conscient qu'il faut qu'on commence par le français et l'anglais. Mais oui, bien sûr, on aimerait bien, ça paraît évident.
Mais en tout cas, nous, on sera heureux de nous faire le relais de ce beau projet de livre ici sur notre chaîne créative du Sturbans Afrique virtuelle. Ben, je vous remercie beaucoup tous les trois, Claudine Dussolier, Abdou Nawar et Ricardo Marco, de m'avoir accordé cet entretien. Et j'espère à très bientôt sur notre chaîne.
À bientôt, alors volontiers en tout cas.
Merci.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.